Et c'est ce qu'on va voir ce matin. La sagesse de Salomon, mais on sait que c'est la sagesse de Dieu. Mais celui qui en a le plus parlé dans la Bible, c'est Salomon. Et c'est un exemple d'un homme qui a manifesté la sagesse de Dieu. Bien sûr, il n'a pas été parfait, puis on se souvient de la chute de Salomon aussi, puis on va le voir, mais c'est pas ce qui a caractérisé toute sa vie, là. C'est un homme de sagesse. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans la leçon 1. Là. Il a conduit le peuple d'Israël dans un règne, une ère de paix. Ça représente finalement le règne de paix que Dieu nous promet pour son peuple, un règne éternel. La semaine prochaine, on va voir la chute de Salomon. Qu'est-ce qui a causé sa chute? Des leçons pour nous. Ensuite, on va faire un survol d'un écrit de Salomon qui est l'Ecclésiaste, un livre difficile à comprendre et parfois mis de côté par certains chrétiens. On le juge trop déprimant. Il n'est pas seulement déprimant. Il est réaliste, finalement, sur la vie. Mais il y a une très belle leçon. Et finalement, c'est un des livres... Oui, c'est encore actuel. Et très, très profond. Mais c'est ça, c'est vrai à toutes les époques, finalement. C'est vrai pour toute personne qui vit sur cette terre. Ensuite, on va s'attarder sur les proverbes avec différents thèmes. Donc, le thème de la sagesse. C'est, tous les proverbes parlent de la sagesse, mais ils parlent spécifiquement du thème de la sagesse régulièrement. Donc, on va voir tout ce qui entoure cela, même pour comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est que la sagesse, finalement. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est sage? On va trouver une définition. Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est sage, mais dans le contexte du travail, dans le contexte de la parole. Ça peut sembler secondaire, là. Tu dis, voyons, le travail, la parole. Mais les proverbes parlent beaucoup de la parole. C'est pas quelque chose de négligeable dans la vie. C'est majeur. Le contexte de l'argent aussi. Comment être sage dans tout ce qui entoure l'argent. Le foyer familial aussi. Donc, le couple. Et c'est là qu'on va toucher un peu aussi Cantique des Cantiques. On va pas s'attarder toute une leçon sur Cantique des Cantiques, là. Il y a certains points qui rejoignent ici ce que les proverbes disent. Et le couple, mais aussi la relation avec les enfants, les parents. Puis, la modération au sens large, là. Modération dans notre consommation, dans notre attitude, d'être modéré. C'est un signe de sagesse. On pourrait dire la sobriété.
L'équilibre.
Oui, l'équilibre, c'est bon. Pas d'abus dans rien. Donc, c'est une session courte, là, de 9 leçons. Ensuite, on va avoir la plus longue session de 12 leçons au printemps. Là, les cours vont être différents. Mais probablement qu'il va y avoir un cours ici sur un survol de la vie de David. Donc là, on étudie plus la vie de son fils, Salomon, mais on va revenir à David. C'est pas moi qui va donner le cours, là, ça va être plusieurs professeurs à partir du printemps. Donc ce matin, le règne de paix. Vous savez qui est Salomon? C'est le roi, le successeur de David comme roi d'Israël. Et David, si on se souvient... Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez lu l'Ancien Testament, mais le premier roi qu'il y avait eu en Israël, c'est Saül. Et finalement, Dieu leur a donné un roi comme ils souhaitaient avoir. Et leur motivation était mauvaise, parce que Dieu était déjà leur roi. Et c'est sûr qu'ils avaient besoin d'être conduits et d'être jugés dans les différentes situations, mais ils avaient justement un juge qui était Samuel. Ils l'ont mis de côté, puis ils ont dit « Non, on veut un roi comme les autres nations. Un roi qui va pouvoir nous mener à la guerre. » Puis là, Samuel leur dit, oui, mais attention, si vous avez un roi, là, il va prendre vos plus belles filles pour lui, il va prendre vos hommes, vos jeunes hommes, il va les enrôler dans son armée, il va diriger, il va prendre vos ressources, là. Il dit, oui, c'est ça qu'on veut. Ah, OK. Bon, bien, voici votre roi. Puis il leur a donné un roi qui était, c'est vrai que, comme disent les jeunes, là, c'était un hot, là. Il était plus grand que tout le monde, il les a menés à la guerre, mais c'était un roi selon leur cœur. Et ça a conduit le peuple, pas à l'obéissance à l'Éternel, plutôt à la colère, parce qu'ils ont, ils ont pas obéi à l'Éternel dans tout ce qu'il leur demandait en suivant Saül. Puis là, Dieu a fait en sorte, finalement, de remplacer Saül par David. Ça a pris plusieurs années, là. Mais je pense que... Bien, on ne sait pas exactement combien de temps a duré le règne de Saül. Mais David a été oint comme successeur du roi, mais ça a pris longtemps avant que, finalement, il devienne. Parce que quand on lit dans le roi, le mot qui dit à quelle époque Saül... est devenu roi et combien de temps qu'il a régné est effacé. On ne l'a pas dans aucun manuscrit. Ouais, ça a été long, mais je ne sais pas si on sait précisément le nombre d'années. Mais la grosse différence qui contraste vraiment, c'est que David était un roi selon le cœur de Dieu. Pourtant, il semblait similaire, là, un chef militaire qui mène son armée au combat. Et Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Mais dans leur cœur, ils étaient très différents. David voulait vraiment servir Dieu. Et c'était un roi selon le cœur de Dieu parce que, justement, Il pouvait agir non seulement comme un roi pour dicter sa volonté, mais vraiment comme un serviteur de Dieu. Donc, c'était finalement Dieu qui régnait sur Israël à travers David. Donc, David conduisait le peuple à l'obéissance de Dieu. Puis, il a pu faire le ménage. Le Dieu lui a donné la victoire sur toutes les nations autour. Donc, pendant le règne de David, Dieu a amené progressivement la paix en Israël. Il a eu le dessus sur les nations. Il a imposé même des taxes. Mais il ne tenait pas les autres nations comme dans l'esclavage ou dans l'oppression, là. Grâce à David, finalement, la paix s'est établie non seulement en Israël, mais dans les nations autour. Tout le monde a bénéficié, finalement. C'est ça. Israël avait le dessus sur les autres nations. Mais ça a pris toute la vie de David, finalement, pour réussir à accomplir tout ça. Et Dieu a fait alliance avec lui. Vous vous souvenez de qu'est-ce que Dieu lui a promis à David? Oui, une postérité, mais il y avait déjà des fils là, quand Dieu lui a fait alliance avec lui. Donc, c'était pas juste, il lui a pas juste promis des fils. Là. Il a promis qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône d'Israël. C'est comme une promesse qui est conditionnelle et inconditionnelle en même temps. Parce qu'il promet, là, pour l'éternité, ton règne va durer. C'est comme inconditionnel. Là. Le règne de David va durer pour l'éternité. Mais en même temps, il dit tes successeurs vont être sur le trône à la condition qu'ils me soient fidèles. Parce qu'il y a comme une sorte de tension, une contradiction. On se dit, comment il peut y avoir un successeur qui va être éternel alors que tous les hommes sont pécheurs et risquent de tomber? Puis on le voit dans les successeurs de David, ça ne s'améliore pas, ça fait juste empirer. Là. Puis il n'y en a aucun qui est bon comme David. Même David n'était pas parfait. Et il a parfois conduit le peuple à pécher. Le peuple était dans la confusion parce qu'à un moment donné, à cause que le péché s'intensifiait, était tellement devenu profond en Israël, Dieu a dit, là, c'est assez. Il n'y aurait plus de roi. Israël a été déporté à Babylone. Puis même lorsqu'ils sont revenus, puis qu'ils ont reconstruit le temple, qu'ils ont reconstruit Jérusalem, il n'y avait toujours pas de roi jusqu'à Jésus. C'est ce qu'on va voir ce matin dans Luc aussi. Jésus est le fils de David. Il est le roi promis. Un roi selon le cœur de Dieu. Il est comme le nouveau David. Mais bon, la promesse n'était pas seulement pour un lointain futur, elle était aussi en même temps immédiate, dans un avenir proche. C'est souvent le cas des promesses de Dieu. Ça s'accomplit tout de suite là, mais ça a aussi un sens plus profond et spirituel pour plus tard. Mais le fils héritier de la promesse de Dieu à David, c'est Salomon. Et ça s'est vraiment concrétisé par le règne de Salomon. On lit dans 2 Samuel 7, « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. » Ça, c'est dit à David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. » Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Dieu promet à David qu'il va lui faire une maison et il dit, ton fils va me bâtir une maison. Il y a vraiment comme une alliance entre deux maisons. J'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes, avec le coup des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui. Et on comprend que ça, si Dieu bénit le roi, il bénit aussi la nation qui le suit. Et même qu'Israël était rendu au pire là, de son infidélité, de son adultère envers Dieu, même lorsque Dieu l'a chassé, il ne l'a pas abandonné. Sa bienveillance ne s'est pas retirée. Même lorsqu'ils étaient déportés, là, Dieu a pris soin d'eux, il les a fait revenir. Mais pendant tout le règne de Salomon, ça a été un règne de paix. Puis avant de mourir, David lui a donné ses dernières recommandations, son témoignage, son testament. Dans 1 Roi 2, il dit « Moi, je m'en vais, où va tout ce qui est terrestre, sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » Afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Quand un homme est sur le lit de mort, là, qu'il va mourir, puis que c'est les dernières paroles qu'il dit, là, ça montre vraiment son cœur. Hein. Il ne dit pas « va tuer un tel » ou Bon, il y avait aussi des recommandations sur comment gérer le pays, là, mais ce qu'il y avait de plus cher à lui dire, c'était « suis l'Éternel, reste-lui fidèle. » Puis bon, Salomon succède à David, et une des premières choses qu'il dit à propos de lui, c'est que comme son père, il aime l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. C'est une des premières choses qu'il dit à propos de lui, dans 1 Roi 3. Puis voyant ça, Dieu voit que Salomon a un cœur comme David son père. Et Dieu lui offre de lui donner ce qu'il veut. Wow, c'était toute une occasion que Salomon avait là. Un peu comme dans l'histoire du génie de la lampe, là. Il peut demander 3 souhaits. Mais là, Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? » Il pouvait lui demander ce qu'il voulait. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Quelqu'un pourrait nous lire 1 Roi 3, 4 à 9.
« Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David, et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? »
Qu'est-ce que Salomon demande à Dieu, finalement? Ben, c'est la sagesse, c'est ça. Mais aussi de la capacité pour gouverner le peuple, prendre les bonnes décisions. Quoi d'autre? Ben oui, l'humilité. Déjà, il fait preuve d'humilité en avouant qu'il est un petit jeune homme qui ne connaît rien. C'est pas évident pour un petit jeune homme d'avouer ça.
Surtout quand il est sur le trône.
En plus, ben oui. Là, il a accès... Le pouvoir lui est donné, il est déjà roi. Mais en fait, toutes les choses qu'on a nommées, toutes les choses que Anne a listées, on peut toutes regrouper ça sous le thème de la sagesse. La sagesse, ça inclut tout ça. Ça inclut les capacités, même les habiletés, l'intelligence pour apprendre les choses, pour discerner les bonnes choses des mauvaises choses, faire des bons choix, avoir un cœur à la bonne place, les bonnes priorités. Tout ça, c'est la sagesse. Et ça lui plaît à Dieu, ça, la demande de Salomon. En fait, c'est ça que Dieu voulait lui donner, là. Mais il voulait que Salomon l'exprime. Et qu'est-ce qu'il va lui donner, finalement? Quelqu'un d'autre peut nous lire 10 à 14.
« Ni les richesses, ni la mort, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pari. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours.
Qu'est-ce que Dieu lui donne finalement? Si on liste, il donne la sagesse. Mais plus même que ce que Salomon souhaitait, il dit qu'il va être l'homme le plus sage que la terre a porté. Il n'y en a jamais eu avant lui, ni après lui, d'homme plus sage que lui. Puis en plus, il lui donne ce qu'il n'avait même pas demandé. La gloire, la richesse. Wow! Puis, c'est une bonne chose, là. On peut se tromper en pensant que la richesse, elle est mauvaise ou que la gloire est mauvaise, mais ce sont des bonnes choses que Dieu donne à celui qui a un cœur bon. Et normalement, quelqu'un qui a un cœur bon, ça ne va pas le corrompre. Bon, dans le cas de Salomon, et comme dans le cas de tous les hommes, il y a un danger avec cela aussi, là. Malheureusement, Satan détourne ces belles choses-là de Dieu pour corrompre le cœur, là. Mais à la base, ce sont des bonnes choses. Et s'ils sont bien utilisés, ça rejaillit sur Dieu, ça glorifie Dieu qui donne ces choses-là. Puis on va le voir que pendant la vie de Salomon, c'est ce qui est arrivé. Ça l'a glorifié Dieu.
Ce qui a corrompu Salomon, c'est pas nécessairement ce que Dieu a donné. C'est le péché qui a corrompu Salomon dans sa vie. Même chose chez David, son père.
Quand on fait le lien avec le Nouveau Testament, c'est Matthieu 6, 33. Hein? « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes choses seront données par-dessus tout. Donc, on voyait effectivement que le souci de Salomon, c'était de rechercher cette justice-là, plaire à Dieu, et puis le Seigneur lui donne.
C'est vrai. Nous, on aurait tendance à penser, Mais si je ne cherche pas l'argent, je ne l'aurai jamais. Mais c'est faux. Dieu dit, cherche pas ça, là. Préoccupe-toi du royaume des cieux, puis je vais te le donner. Où les gens souhaitent être aimés. Là, parfois, il y en a qui ça devient une obsession. Là. Ils font tout pour plaire aux gens, pour être aimés par eux. Et Dieu dit, préoccupe-toi pas de ça, là. Préoccupe-toi d'aimer Dieu, d'être aimé par Dieu, là. Puis je vais te donner, en plus, des amis, une famille. Puis, en plus, il lui dit, bon, une sagesse sans égale, la richesse, la gloire, mais aussi une longue vie. Tu sais, Salomon aurait pu lui demander ça aussi, là. La protection pour vivre longtemps. Même pas, là. Il s'en remettait au plan de Dieu. Mais Dieu lui dit, en plus, si tu es mes fidèles, tu vas vivre longtemps. Le règne de Salomon a été aussi long que celui de David, finalement, 40 ans. Mais on voit que Dieu a fait en sorte, finalement, qu'il lui reste fidèle pendant sa vie. C'est vers la fin de sa vie qu'il est tombé. Mais quand même, il a régné pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il a été fidèle à Dieu longtemps. Même ça, la fidélité à Dieu, c'est un don de Dieu. Ça fait partie de la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc Dieu l'a rendu fidèle.
Quand on regarde la vie de David, la vie de Salomon et la vie de beaucoup d'individus dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. Quand il dit qu'il vit, tu marches dans mes voies en observant mes voies, mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Mais on sait que David n'a pas toujours été un bon observateur des lois, quelqu'un d'obéissant. Il a été rebelle des grands bouts de temps. Mais Dieu ne dit pas ça. Il dit, si tu marches comme ton père. Donc, on voit la grâce de Dieu chez David et le pardon de l'Éternel aussi. Et on le voit chez David et on le voit aussi chez Salomon.
David a péché gravement, là, mais Dieu l'a pardonné à la demande de David. Il lui a fait grâce. Puis après, quand Dieu fait le rapport de la vie de David, il le présente comme un homme juste, un homme saint. Son pardon est vraiment complet. Et quelle est la première chose que Salomon fait? Parce que ça pourrait être des belles paroles, là. La première chose qu'il fait, c'est qu'il offre des holocaustes et des sacrifices de communion. Donc vraiment, il se tourne vers Dieu. Et il célèbre avec tous ses serviteurs. Ça aussi, ça montre vraiment son cœur, là. Il voulait célébrer avec les serviteurs qui représentaient finalement tout le royaume. Donc, il savait qu'il faisait partie du peuple de Dieu, finalement. Et il veut célébrer avec le peuple de Dieu. Et on voit sa sagesse, premièrement, dans ses jugements. La manière dont il peut juger, parce que à l'époque, on se présentait finalement devant le roi. C'était comme la Cour suprême pour trancher dans une requête, un procès. Et sa justice, elle était vraiment sage. Et les gens ont été stupéfaits de ça. Le premier exemple qui est donné, il n'y a pas plusieurs exemples qui sont donnés, là, mais un exemple qui représente bien sa sagesse, là, c'est l'exemple des deux mères. Vous vous souvenez de l'histoire? Ces deux mamans qui ont été enceintes en même temps. Puis elles ont accouché en même temps. Elles avaient tous les deux un bébé. Et l'une des deux, pendant la nuit, s'est tournée et a étouffé son bébé. Il est mort. Puis quand elle a vu qu'il était mort, elle l'a changé avec le bébé de l'autre. Puis l'autre maman s'est réveillée, puis elle a bien vu que c'était pas son fils. Finalement, elle a cherché justice, elles se sont retrouvées tous les deux devant Salomon. Et les deux disaient, c'est mon bébé qui est vivant et c'est le sien qui est mort. Comment savoir qui dit vrai? Puis Salomon a fait ce que personne n'aurait pu imaginer, pourtant c'est simple, mais il dit, OK, apportez-moi une épée. Tous les deux, vous voulez le bébé, on va le couper en deux, on va en donner chacun une moitié, tout le monde va être content. Apportez l'épée. Puis là, la vraie maman a dit, non, non, ne tuez pas, donnez-lui. Puis pour qu'il reste en vie. Puis l'autre maman, elle dit, c'est correct, on va le couper, on va avoir chacun une partie. Donc, on voit, c'était évident, c'était qui la mère. Puis Salomon, elle dit, non, c'est correct, coupez-le pas, donnez-le à la vraie mère, c'est elle, cette vraie mère. Puis tout le monde a été stupéfait, parce que c'était très sage, mais en même temps, c'était très évident. Donc, personne n'aurait pu penser à un stratagème comme ça, là. Ça montre toute son intelligence. Mais en même temps, c'est une chose qui est très simple et que tout le monde pouvait comprendre. Et même lorsqu'on rapporte l'histoire, on se dit, ben oui, c'est évident. C'est elle, la maman. Donc, c'est vraiment une preuve de sagesse, ça. Quand on fait une action, puis que tout le monde peut comprendre. Puis, donc là, les gens ont commencé à avoir de la crainte du roi. Ils ont dit, wow, lui, on peut pas y en passer. Et finalement, ça a eu des bonnes répercussions. Le peuple souhaitait être juste, ne pas se retrouver devant Salomon pourrait être jugé par lui parce qu'il disait, on va être fait, là. Il va percer notre cœur. Et finalement, la crainte qui inspirait Salomon, c'était la crainte de Dieu. Donc, c'était vraiment un juge selon Dieu. Merci. Mais donc, on voit qu'il avait une capacité à discerner le bien, le mal. Il pouvait apporter des bons jugements. Et il n'a pas passé des années d'études, là. Ça a été vraiment miraculeux, là. Dieu lui a donné cela, cette capacité-là. Et tout le peuple reconnaissait que cette sagesse-là venait de Dieu. Aussi, sa grande intelligence. On peut avoir plusieurs définitions à qu'est-ce que c'est que l'intelligence, là, mais selon la Bible, ben, on est d'accord même aujourd'hui, là. L'intelligence, c'est premièrement d'être capable d'emmagasiner des connaissances, de faire des liens avec ce qu'on apprend. Et comment ils appellent ça à l'école, les compétences transversales, là. Mais Salomon avait une connaissance extrêmement vaste et dans tous les domaines. Donc, on comprend qu'il suffisait que quelqu'un lui présente quelque chose puis il le mémorisait. Même peut-être que Dieu lui a, de manière surnaturelle, donné des connaissances, comme télécharger des connaissances. Le texte ne dit pas, là, mais il savait une foule de choses, là, sur les minéraux, sur la faune, la flore, sur le comportement humain, la manière d'organiser les choses. Et dans sa vie, la Bible nous dit qu'il a prononcé 3000 proverbes. Donc, ce qu'on a dans la Bible, finalement, c'est seulement un extrait de tous les proverbes qu'il a prononcés. Bien, c'est un extrait que le Saint-Esprit a voulu qu'on ait, mais on sait qu'il a écrit beaucoup plus que ce que l'on a. Et plus de 1000 chants. Je pense qu'on a un seul psaume de Salomon dans les 150 psaumes. Je ne me souviens plus. Il y en a plusieurs. En tout cas, mais la Bible nous dit qu'il en a composé à environ 1000. Donc, il y avait une grande sagesse. La sagesse de Salomon se voyait aussi dans sa façon de diriger le pays, une bonne administration. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de ministres, de hauts fonctionnaires. Donc, c'est lui qui a établi tout cela, comme la fonction publique, le maintien de la domination que David avait acquise avec les autres nations aussi. Mais Salomon l'a maintenu, ça. Ça ne s'est pas dégénéré, parce qu'on a vu d'autres rois par la suite, là. Même le fils de Salomon, là, ça n'a pas été long que ça s'est retourné contre Israël, là. Dans le temps de le dire, la bonne relation, la diplomatie, là, ça tient à un fil, là. Mais Salomon a su maintenir ça pendant tout son règne, ce que David avait acquis, avec tous les royaumes dans la Mésopotamie, jusqu'à la frontière de l'Égypte même. Il a même fait des nouvelles alliances avec Tyr, avec l'Égypte, avec Saba. Il a su maintenir la paix. On voit sa manière de la bonne diplomatie qu'il avait. Il a su aussi faire le commerce. Donc, finalement, tout le pays en a tiré bénéfice. Un bon dirigeant, un bon roi. Et ce qui montre la sagesse de Salomon aussi, c'est son service agréable à Dieu, le culte qu'il donnait à son Dieu. Et c'est lui, enfin, qui construit le temple selon le plan de Dieu. Ça a été long avant qu'un temple soit finalement construit, une maison fixe pour l'Éternel. Vous vous souvenez combien de temps qu'Israël a passé en Égypte et qu'ils sont devenus esclaves même en Égypte? Ben après qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont entrés en Canaan, ben ils ont tourné 40 ans dans le désert, là, mais une fois établis en Canaan, puis que c'est la terre promise qui est devenue la terre d'Israël, ça a pris encore 400 ans avant que le temple soit construit. Donc, au moment où Salomon construit le temple, c'est 480 ans après la sortie d'Égypte. Ça a été quand même long. Pendant tout ce temps-là, c'était encore comme la tente du tabernacle, avec l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance n'a pas toujours été au même endroit non plus, là. C'est David qui l'a rapatrié. Salomon, finalement, construit le temple que David souhaitait construire, mais Dieu avait réservé ça pour son fils. Et Salomon y fait entrer l'Arche de l'Alliance au jour de la dédicace. Puis, c'est écrit que la nuée de la gloire de Dieu a rempli le temple. Qu'est-ce que ça nous montre, cela? Oui, sa présence, mais le fait que Dieu daigne être présent en un lieu comme cela, là, bâti par les hommes, ça montre, comme dit Dominique, son approbation. Dieu approuvait ce que Salomon avait fait. Il approuvait l'attitude du cœur de ceux qui étaient présents, finalement du roi et de tout le peuple qui le suivait. Dieu montre qu'il approuve, puis il est content de son peuple, puis il vient résider au milieu d'eux. C'était vraiment un événement extraordinaire, là, que Dieu vienne résider sur terre dans une maison construite par les hommes, au milieu de son peuple. Puis la fête qu'il y a eu ce jour-là, ça a été grandiose, là. Des milliers de bêtes sacrifiées. Bon, nous, on trouverait ça peut-être horrible, là, de voir tout le sang qui coule, là. Mais tout ça, c'était dans une attitude festive et glorifier Dieu. Mais le sacrifice de communion, c'est que tu es comme en communion avec Dieu. Une partie est donnée au prêtre. Puis ça faisait partie du service que de manger ensemble, de se réjouir. Donc Dieu voulait que le peuple prenne un repas. Et ils étaient en communion entre eux, mais en communion avec lui aussi. Bien, un holocauste, l'animal est vraiment sacrifié. Et c'est intéressant de voir la prière le jour justement de la dédicace du temple, la prière de Salomon. Là, Salomon, c'est comme s'il fait un discours à la nation. Mais son discours, il l'adresse à Dieu, mais pour que tous l'entendent. Ça montre vraiment qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Au verset 23, on lit l'Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Donc, c'est le roi, là, tout-puissant, qui a toute autorité. Et il s'appelle lui-même un serviteur. Il est le serviteur de Dieu. Verset 30. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges dans les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. Car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Quelle impression ça vous donne, sa prière? C'est pour ça que Dieu construisait une maison, ou avait demandé qu'on lui fasse une maison. C'est pour que ce soit un lieu de prière. La maison sera appelée une maison de prière.
Ça va avec le verset 29 aussi, le verset 29 de la petite nuance. Que tes yeux soient mis toujours ouverts sur cette maison, sur le lieu que tu as dit. Là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Donc, ça va avec la suite.
Et c'est quand même une prière. Même si le ton peut nous surprendre, c'est... Mais on le fait dans nos prières aussi. Là.
Ouais.
On demande à Dieu, accorde-moi un travail ou accorde-moi la guérison pour une maladie. Fais en sorte, touche le cœur d'un tel, un tel. On n'est pas en train de donner des ordres à Dieu, c'est un souhait qu'on exprime. C'est une prière. Donc, on doit comprendre que tout ça, c'est une prière. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est le roi qui parle. Et il ne dit pas, écoute mon peuple. Il dit, écoute ton peuple. Vraiment, il reconnaît que Dieu est le roi. Pourtant, Salomon est le roi, mais il reconnaît que c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui siège. Pourtant, Salomon est placé à la plus haute instance juridique. C'est lui le juge suprême. Et il dit que c'est Dieu qui siège dans les cieux.
C'est sa justice.
C'est sa justice à lui, c'est ça. Donc vraiment, il se place en position de soumission, d'humilité. Donc Salomon est prêt à régner, puis il prend autorité sur le peuple. Il le fait consciemment en étant soumis à l'autorité de Dieu.
Effectivement, il montre non seulement sa dépendance totale de Dieu, et puis il reconnaît que le pouvoir qu'il exerce, au fait, il ne vient pas de lui. Mais c'est Dieu qui lui donne l'autorité à cette royauté-là. Et puis aussi, Salomon a grandi dans l'ambiance de David. Donc, il a vu la grandeur de son père. Pour lui, il est dépendant de Dieu. Et puis, dans la prière, il daigne exaucer la supplication de ton serviteur. Donc, c'est vraiment une prière qu'il fait. Il supplie que Dieu règne.
C'est vrai qu'il a eu le bon exemple de son père, David, un homme très humble. Il était en position d'autorité. Et on voit aussi dans la prière une ouverture aux autres nations. Donc, Dieu lui avait révélé que son plan de bonté, le bien pour son peuple, n'était pas réservé exclusivement à son peuple. C'était ouvert à toute personne, tout étranger, qui voulait venir adorer le Dieu d'Israël. Et Salomon en parle, ça, verset 41 à 43. Il dit, « De même pour l'étranger, qui lui n'est pas de ton peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël. » Donc, c'était le souhait de Salomon, que les nations connaissent le Dieu d'Israël. Et on comprend que, finalement, à travers Jésus, ça prend tout son sens, son accomplissement final. Il avait aussi une attitude de consécration. Ce n'est pas seulement des souhaits qu'il présente, mais il sait très bien que l'Alliance est conditionnelle à la fidélité du peuple. Puis il dit, « Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, que nous observions ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances qu'il a données à nos pères. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a point d'autre. Donc, son but, c'est vraiment de glorifier Dieu, mais il savait que pour glorifier Dieu, il fallait qu'il soit obéissant. Ça passait par leur témoignage. Et il demande à Dieu de toucher leur cœur, d'incliner leur cœur vers lui. C'est vraiment Dieu qui peut faire ce travail-là dans le cœur. Et effectivement, Salomon a été un homme très sage. Et les recherches archéologiques nous ont aidés à comprendre le contexte de l'époque. Dans le Proche-Orient, dans toute cette région-là, dans tous les pays connus de l'époque, ils pensaient que c'était la terre entière. Mais la sagesse qu'avait un pays était considérée comme d'une très grande valeur. Un pays était jugé en fonction de la grandeur de son armée, la grandeur de ses richesses, la grandeur de son territoire, sa population, mais aussi sa sagesse. À quel point une nation était sage, et il y avait une sorte de compétition entre les nations. Puis les nations mettaient par écrit leur sagesse. Ils avaient pris l'habitude, il faut que la génération suivante se souvienne de ce que l'on sait. Ils voulaient que ça soit préservé. Donc c'est normal qu'en archéologie, qu'on trouve des écrits de sagesse dans plusieurs nations, plusieurs peuples. Et il y avait une forme de compétition, puis les rois et les sages se visitaient. On trouve des fois dans des écrits où ça dit « le roi a visité un tel, et finalement il a vu que sa sagesse était vraiment supérieure ». Bon, les écrits sont souvent trafiqués là, pour montrer que chacun est plus sage que les autres. Mais ils se visitaient pour s'évaluer les uns les autres. Ou ils envoyaient un de ses sages. « Va donc voir celui-là, qu'est-ce qu'il sait, là. » Puis en même temps, ils rapportaient ce qu'ils savaient. Donc on voit, il y avait une sorte de partage aussi de la sagesse. Donc c'est normal de trouver des proverbes qui ressemblent à des proverbes de d'autres peuples. Dans les écrits de l'Égypte, on trouve certains proverbes qui ressemblent aux proverbes de la Bible. Des étudiants qui ont fait des recherches, il y en a qui étaient troublé de voir ça, mais pourtant je pensais que c'était la sagesse de Dieu. Comment ça se fait qu'on retrouve certaines paroles dans des écrits païens? Mais c'est normal, il y avait un certain échange. On va voir un peu plus loin, là, qu'est-ce que c'est que la sagesse dans les prochaines semaines. Et c'est pas quelque chose qui est totalement inaccessible aux incroyants. C'est quelque chose qui est, jusqu'à un certain point, accessible, jusqu'à un certain point.
Beaucoup d'observations.
Puis la Bible elle-même parle de la sagesse des autres peuples. La Bible parle de la sagesse de l'Égypte, dans un roi 5. Elle parle de la sagesse d'Édom, dans Jérémie, la sagesse de Babylone. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est la sagesse, les connaissances, le savoir-faire, le savoir-être, la manière de diriger le pays de chacune des nations. Mais Salomon les surpassait toutes, et il est devenu comme la superstar de son époque. Finalement, tout le monde en parlait, il disait « Wow, OK, on a vu la sagesse d'un tel, mais allez voir Salomon, là, ça dépasse. » On lit dans 1 Roi 5 « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. » Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ésraïte, je ne sais pas c'est qui, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Mahol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Si la Bible prend la peine de le dire, c'est parce que les gens l'avaient évalué, cette sagesse-là. Et il y avait des gens qui étaient connus. Donc, à l'époque où Roi a été écrit, les gens connaissaient Étan, Éman, et Calcol et Darda. Nous, ça ne nous dit rien, là, mais... C'était des gens connus à l'époque là, pour être des hommes très sages. Et ils se sont évalués, puis finalement, c'était d'avis commun, là, général, que Salomon les surpassait tous. Ou dans 2 Chroniques, on lit « Tous les rois de la terre cherchaient à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Et c'est ce contexte-là que la reine de Saba a fait un voyage à partir de Saba qui, lorsqu'on descend là, d'Israël, puis on s'en va le plus au sud là, jusqu'à la mer, là, Saba, c'est loin, là. C'est à peu près à 2000 km. Mais elle a fait ce voyage-là de 2000 km avec sa caravane là, pour aller se mesurer à Salomon.
Elle en ferait dans l'auto, c'est long.
Ah oui, c'est long. Donc, on lit « La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. » Elle dit « OK, on va aller voir si vraiment il est aussi connaissant qu'on le dit. » Donc, même, elle a pris la peine de se préparer d'avance avec des énigmes, des questions pointues pour savoir s'il pouvait répondre. Puis, elle en a perdu le souffle. Donc, le texte dit qu'elle a vu toute l'ampleur des connaissances de Salomon. Il a su lui répondre, même mieux que ce qu'elle pensait. Elle a vu toutes les œuvres que Salomon avait accomplies, sa manière de juger, ses jugements, son administration, et même le culte, donc tout le système religieux, le système de culte là, qu'il offrait à l'Éternel l'a impressionné. Ça n'avait pas son égal dans aucun culte païen de faux dieux ou des cultes inventés par les hommes. Et toute sa prospérité aussi, surpassait même la réputation de Salomon. Ça veut dire que même lorsque les gens parlaient de lui et que ça pouvait sembler exagéré, la réalité était encore plus grande. Et donc, la reine de Saba a été vraiment époustouflée. Et tout cela, comme on le lit ici dans un roi, c'était à la gloire de l'Éternel. Donc, la sagesse de Salomon, finalement, glorifiait Dieu. Puis la reine, même, en rend témoignage. On lit dans 1 roi 10, « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Alors, c'est une femme qui ne connaissait pas l'Éternel, là. Et finalement, voyant tout cela, là, elle loue l'Éternel. La sagesse de Salomon aussi était fondée sur un amour pour Dieu. Et ça a procuré à Israël une ère de paix et de gloire qui a été inégalée. Après, les autres rois, là, ils n'ont pas connu une paix aussi profonde. Puis, il y a plusieurs signes qui montrent que pendant l'époque de Salomon, c'était spécial. Il n'y a eu aucune guerre sur le territoire d'Israël. En tout cas, s'il y a eu une bataille, ça n'est pas rapporté. Donc, intentionnellement, c'est montré dans Roi et dans Chronique que pendant le règne de Salomon, qui a duré 40 ans, c'était un règne de paix. Il n'y a eu aucune catastrophe naturelle. Il n'y a pas de famine qui est rapportée ou de grande épidémie, de tremblement de terre. Il y a certaines catastrophes naturelles qui sont présentées, là, une invasion de sauterelles dans d'autres époques, mais pas dans la période où Salomon régnait. Tout ça, c'est un signe de l'approbation de Dieu. Et ça avait été prédit par Moïse. Moïse avait dit, la loi de Dieu, si vous lui obéissez, elle va faire votre fierté. Donc, la gloire de Dieu, finalement, même va réjaillir sur vous. Dans Deutéronome, il dit, « Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions, des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique, dans le pays où vous allez entrer pour prendre possession. Ce sera là votre sagesse. » Donc, finalement, la vraie sagesse, là, est fondée sur la loi de Dieu, les principes moraux qui s'y trouvent dans toute la pratique, l'administration. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Wow, cette nation, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. » Et pendant le règne de Salomon, ils ont mis en pratique la loi de l'Éternel et c'est ce qui est arrivé. La réputation de Salomon, là, finalement, c'était la réputation d'Israël. Et ils ont été considérés comme le peuple le plus sage et le plus intelligent pendant cette période. Et Dieu a béni Israël. Dans Deutéronome 28, on lit « Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. » C'était bien sûr conditionnel. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre d'être un peuple qui lui appartiendra en propre, comme il te l'a dit, et d'observer tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc, il y a eu une période dans toute l'histoire d'Israël où ce que c'est pas très beau, là. Une période où est-ce que finalement ça s'est accompli ce que Dieu avait promis, là, et c'est dans le règne de Salomon. Puis on le voit, c'est pas long, là, à la chute de Salomon, on va le voir la semaine prochaine, là tout dégringole. Le peuple, non seulement Salomon en subit les conséquences, mais tout le peuple avec lui. Donc ça dépendait finalement premièrement de la fidélité de leur roi. D'où l'importance d'avoir un bon roi. Donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, notre roi sage, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Christ veut dire « oint ». C'est Jésus le « oint ». C'est Jésus que Dieu a oint pour qu'il soit notre roi. Et c'est un roi bon et sage. Et si on le suit, c'est sûr qu'on va être toujours dans les bonnes grâces de Dieu. Et c'est sûr que Dieu va approuver notre comportement si on suit Jésus. Amen. Les rois humains ont tombé et ont fait tomber le peuple avec eux. Mais Jésus ne tombe jamais. Il n'a jamais tombé, il ne tombera jamais. Donc si on le suit, finalement, on reste. La paix nous est assurée. Ça demeure conditionnel, finalement. Mais Dieu promet que si on suit Jésus, cette condition-là est remplie. Donc, c'est pour ça que Jésus peut dire, je vous laisse ma paix. La paix est assurée. Et aujourd'hui, on le réalise encore que partiellement. Mais le royaume qui nous attend, le royaume de Dieu, là, c'est vraiment un royaume du type de Salomon, mais à la perfection et pour l'éternité. une paix qui est assurée pour toujours. Donc, Jésus est tout ce que Salomon a représenté, et même plus, comme on dit qu'il n'y a eu aucun homme d'aussi sage que Salomon sur la terre, excepté le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu sur terre, c'est le Créateur. C'est pour ça que Jésus dit, dans Luc 11, « Il y a ici plus que Salomon. » Wow! C'est pas une petite affirmation, ça. Là. Jésus était plus que Salomon et tout ce que Salomon représente. Là. Il y avait plus que cela dans la personne de Jésus, présente au milieu de son peuple. Dans Colossiens 2, on dit, c'est Paul qui dit, il parle de Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ n'a pas seulement reçu une sagesse ou il n'a pas développé une sagesse, il est la sagesse. C'est lui dans Proverbe 8 là, qu'on dit que la sagesse est comme une personne. Là. C'est lui, c'est Jésus. Et toute la connaissance est en lui. Il est le sage par excellence qui conduit le peuple de Dieu dans l'obéissance, dans un règne éternel de paix et de gloire. Puis en conclusion, comme Célestin l'a souligné en début de la leçon, Jésus nous demande finalement de le suivre un peu à la manière de Salomon, d'agir comme Salomon, de chercher avant tout à bien servir le peuple de Dieu. On doit considérer que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour notre petite gloire personnelle, c'est pour la gloire de Dieu qui rejaillit sur le peuple de Dieu. Donc, c'est finalement pour servir l'Église. C'est pour ça que Paul dit que tout ce qui nous est donné, tout don sert à l'édification de l'Église, à bâtir la maison de Dieu. La maison de Dieu où Dieu peut écouter les prières, être glorifié. En Matthieu 6, on dit « Ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Cela, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume, sa justice, donc le royaume de Dieu, le règne, et que sa justice soit accomplie. Cherchez ça premièrement, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et plus nous aimons Dieu, comme Salomon aimait Dieu, bien plus Dieu sera glorifié. Plus nous allons chercher à le glorifier, non seulement au milieu de l'Église, mais en tout lieu où on se trouve, devant tous, devant même ceux qui ne le connaissent pas. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Puis Paul dit, je ne cherche pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Finalement, chaque personne qui se convertit, qui entre dans le royaume de Dieu, bien, ça fait en sorte de glorifier Dieu. Et c'était le plus grand souhait de Paul. Et finalement, si on manque de sagesse, on peut faire comme Salomon, et simplement la demander à Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il veut donner. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc Dieu, finalement, nous donne l'occasion là, de demander la même chose que Salomon a demandé. On peut avouer à Dieu, je suis qu'un petit garçon qui ne sait pas gouverner, qui ne sait pas quoi faire. Donne-moi la sagesse. Et Dieu promet qu'il va la donner. Il va nous donner la connaissance nécessaire pour lui obéir, pour accomplir le plan qu'il a pour nos vies, un bon jugement pour discerner le bien du mal, prendre les bonnes décisions, des capacités même pour être en bonne relation. Il veut que nous soyons son peuple. Et chacun de nous a un rôle à jouer et un cœur bon et fidèle pour le suivre. Donc, quand on demande la sagesse à Dieu, on demande aussi qu'il incline notre cœur vers lui, qu'on lui soit fidèle et qu'on reste fidèle. Amen.
Amen.